Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Après avoir vu son élection certifiée par le Sénat lundi, dans un climat tendu à Washington, 4 ans après l'assaut du Capitole lancé par ses partisans, Donald Trump est reparti à l'attaque hier, mardi, lors d'une conférence de presse au ton plus impérialiste que jamais, faisant part entre autres de sa volonté d'acquérir le Groenland ou d'annexer le Canada. Aujourd'hui, on va donc avec Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, tenter d'analyser ces déclarations du président élu qui, malgré tous ses efforts, connaîtra dans 2 jours sa sentence dans l'affaire Stormy Daniels. Salut Thierry.
Salut Benoît.
Bonne année, content de te retrouver en ce début du mois de janvier.
Et oui, moi aussi, ravi de te retrouver à distance avant qu'on se retrouve tous les deux à Washington pour l'investiture, bien sûr.
Absolument. Investiture donc qui va donner les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump. Ça fait longtemps qu'il attend ça et puis nous, ça fait longtemps qu'on en parle aussi. Mais avant ça, il y avait une étape extrêmement importante, c'est la certification des résultats de cette élection présidentielle américaine qui a vu donc le 5 novembre dernier Donald Trump l'emporter face à Kamala Harris. Une certification évidemment dans une ambiance tendue à Washington parce que c'était 4 ans après le 6 janvier 2021, date de la certification des résultats de la victoire de Joe Biden face au même Donald Trump. Et on s'en souvient, l'assaut des partisans de Donald Trump sur le Capitole qui s'en était suivi. Et là, ironie de l'histoire, c'est la vice-présidente des États-Unis, présidente du Sénat Kamala Harris, qui a eu la lourde charge, un peu cruelle hein, pour elle, on peut le dire, de certifier le résultat et donc la victoire de Donald Trump. Je te propose qu'on l'écoute.
Les votes pour le président des États-Unis sont les suivants. Donald Trump, de l'État de Floride, a obtenu 312 voix. Kamala Harris, 226 voix. Cette annonce de l'état du vote par la présidente du Sénat sera considérée comme une déclaration suffisante des personnes élues président et vice-président des États-Unis d'Amérique. Pour un mandat commençant le 20 janvier 2025.
Bon Thierry, on l'entend dans la voix de Kamala Harris, ça reste très professionnel, mais on se dit quand même que, à l'intérieur, ça doit être un peu difficile.
Oui, c'est assez compliqué et ça se voit sur son visage, bien sûr, lorsqu'on regarde ces images. Et puis, ça me faisait penser aussi à ces scènes assez étonnantes auxquelles on a assisté ces derniers jours, puisque ce nouveau congrès qui va démarrer, il repose en partie sur un Sénat qui a été renouvelé. Et tu as dû voir comme moi ces images de prestations de serment, puisqu'en tant que vice-présidente, elle est la présidente du Sénat, c'est pour cela qu'elle vient de certifier l'élection. Mais c'est aussi elle qui fait prêter serment au sénateur qui démarre un nouveau mandat. Et il y a eu en particulier celle qui a fait le plus débat, cette prestation de serment de la nouvelle, la sénatrice reconduite, plus exactement du Nebraska, et l'attitude de son mari, Bruce Fisher, qui manifestement est très hostile à Kamala Harris, refuse de la regarder dans les yeux et refuse de lui serrer la main de manière très ostentatoire. Alors, les conservateurs ont fait valoir du côté de MAGA qu'il y avait une Bible dans une main et que de l'autre, il tenait une canne. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas pu serrer cette main. Mais enfin, quand tu regardes l'image, il y a quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a assez peu de doutes sur, on va dire, la froideur, et je pense que le mot est faible en l'occurrence, avec laquelle il considère, si l'on peut dire, la vice-présidente des États-Unis.
Moi, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le constat, et ça ne sera pas tellement surprenant quelque part qu'il y ait un seul fait d'armes important comme ça. Ça me semble assez raisonnable d'un autre côté. Donald Trump, donc, qui a sa victoire reconnue par la loi, par la Constitution, ça c'est une chose. Il va donc prendre le pouvoir dans 12 jours maintenant, puisqu'on enregistre ce podcast le 8 janvier. Pour autant, et on en parlait dans les précédents épisodes, il ne s'arrête pas là, Donald Trump, et je pense qu'il faut qu'on parle de cette conférence de presse qu'il a tenue hier, mardi. C'était chez lui à Mar-a-Lago. Conférence de presse, tu vas me dire ce que t'en penses, mais avec un ton extrêmement impérialiste. C'était rare de... Je me souviens pas l'avoir entendu aussi véhément dans ses propos, qui étaient plus ou moins décousu. D'ailleurs, dans le désordre, il a expliqué que finalement le golfe du Mexique, il faudrait le renommer en golfe de l'Amérique. Il a redit que finalement le Groenland, ce serait quand même une bonne chose de l'acquérir pour des questions de sécurité nationale des États-Unis. Il s'est interrogé sur la force également pour reprendre le contrôle du canal de Panama. Tu vas compléter tout ça si tu le souhaites, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence de presse? De mon côté, je me suis dit, mais qu'est-ce que fait Donald Trump? Est-ce que c'est encore un énorme bluff? Est-ce qu'il va vraiment faire ça, faire tout ce qu'il dit à partir du 20 janvier? Ça soulève une question assez importante, je trouve.
En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que vu d'ici, le retentissement de cette conférence de presse a été énorme, et les propos ont beaucoup choqué, parce que il y avait effectivement, comme tu le disais, au fond, beaucoup d'agressivité dans la manière dont il poussait ses revendications, un langage effectivement assez impérialiste, et comme toujours, c'était du Trump dans le texte, c'est-à-dire que c'est à la fois un peu décousu, ça peut sembler irrationnel, les mots sont très violents, mais quand tu creuses un peu, tu vois émerger quand même une image relativement claire de la manière dont il envisage de non seulement de défendre les intérêts américains, mais aussi de les étendre. Parce que quand tu prends ces sujets un par un, tu constates qu'à chaque fois, il y a des enjeux évidemment stratégiques pour les États-Unis, qui sont à la fois géopolitiques, économiques, et qui donnent, au fond, une clé de la manière dont il envisage son mandat, en étant dans le rapport de force et en étant... dans l'absence totale de restrictions par rapport à ce qui avait pu lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues à l'occasion de son premier mandat.
Il faudra voir effectivement à partir du 20 janvier, mais tout ça, le Canada, le Panama, le Groenland et donc le Danemark, le Mexique aussi, Donald Trump qui a reparlé de sa volonté d'augmenter les droits de douane pour le Mexique et le Canada, tout ça, ce sont des alliés de Donald Trump et des États-Unis, quand même, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et,
oui.
Et le fait qu'ils sortent qu'ils montrent les muscles comme ça une nouvelle fois, est-ce que vraiment il dit il veut faire peur à ses alliés pour essayer de négocier toujours, Donald Trump qui a quand même l'art du deal, pour paraphraser le livre qui avait été écrit par lui, ou en tout cas par une autre personne, mais qu'il avait signé. Est-ce que c'est vraiment finalement se donner un poids supplémentaire pour de la négociation, ou est-ce qu'il va vraiment, 8 ans plus tard, 8 ans après son premier mandat, serrer la vis au niveau de la politique internationale?
Tu te poses toujours cette question avec Donald Trump, et tu te poses aussi la question de savoir si c'est délibéré ou pas, mais tu sais que tu les as entendus comme moi, hein, autour de lui, ses fidèles expliquent que le fait, au fond, d'entretenir l'ambiguïté sur la sincérité de ses intentions et sur là jusqu'où il est prêt à aller, c'est un avantage, parce que, au fond, ça entretient l'incertitude aussi dans le camp adverse, vers ceux qu'il cherche à affaiblir ou à dominer, et cette incertitude joue à son avantage. Alors, quand tu prends ces sujets, ils n'ont pas tous le même degré de conviction. Si tu prends le cas du Canada, par exemple, il est clair que, pardon de le dire comme ça, mais il tire sur une ambulance. On sait très bien que le pays est en grande difficulté politique, que le Premier ministre Justin Trudeau vient de démissionner dans des conditions qui ont été d'ailleurs très largement critiquées et qui va rester quelques mois encore au pouvoir et que ça va être un Premier ministre canard boiteux. Donc on sent bien qu'il veut pousser son avantage pour essayer d'obtenir le maximum de concessions. Mais si tu pousses le raisonnement jusqu'au bout et que tu te dis, ben, imaginons par exemple que le Canada devienne le 51e État américain ou, compte tenu de la taille du pays, quelques États américains supplémentaires, en réalité, tu aboutis à la conclusion que si tu regardes la configuration et notamment l'orientation politique du Canada, tu aboutirais avec, on va dire peut-être quelques dizaines d'élus au Congrès américain, la Chambre des représentants, une grosse poignée de sénateurs aussi, dont tu n'imagines pas une seconde, même ceux qui sont à droite, qui pourraient soutenir les politiques de Donald Trump. Donc, s'il intégrait le Canada à un grand ensemble qui serait les nouveaux États-Unis d'Amérique, au fond, politiquement, ça lui reviendrait comme un boomerang, parce que ça ne serait plus un pouvoir trumpiste ou conservateur au sens où lui l'entend. Donc là, il est manifestement dans l'outrance. Il va trop loin et comme toujours avec lui, c'est difficile de savoir dans quelle mesure il le sait ou pas. L'outrance, elle est évidemment présente sur tous les autres sujets aussi. Mais là, tu as quand même le sentiment qu'il y a un raisonnement qui est un peu plus construit. Si on prend le cas du Groenland, par exemple, d'abord, c'est une vieille lubie de Donald Trump, on le sait. Il en parlait déjà beaucoup à l'occasion de son premier mandat. Mais tu vois bien qu'il y a un sujet majeur qui est la conséquence de la fonte des glaces dans l'Arctique, qui a deux effets spectaculaires. Le premier, c'est que ça libère des routes maritimes qui deviennent totalement stratégiques et que les Chinois sont déjà en train d'utiliser. Et puis la deuxième, c'est que ça libère aussi potentiellement l'exploitation de métaux précieux qui va se libérer à cause de la fonte des glaces, du cuivre, du lithium, etc. Tous ces métaux rares, et que donc c'est potentiellement un trésor stratégique qui va apparaître dans cet endroit du monde. Donc là, il y a une forme de, même si encore une fois on est dans l'outrance et dans une appréhension des relations internationales qui est assez contestable pour le dire pudiquement, mais il y a un raisonnement qui tient la route d'un point de vue stratégique, géopolitique et économique. Quoi.
Bon, il n'empêche que, évidemment, les représentants du Groenland via le Danemark, le Panama, le Mexique, le Canada ont évidemment répondu à Donald Trump et lui ont fait savoir qu'il était bien gentil, mais que les choses fonctionnaient.
Mais que même pas en rêve.
Voilà, mais que même pas en rêve et qu'il reste gentiment à Washington, que ça irait très bien comme ça. Quelque part, je trouve aussi que le fait qu'on parle de tout ça, que Donald Trump agite les bras et les mots toujours plus fort, ça permet aussi, et ça lui permet, d'éviter qu'on parle trop d'un autre caillou dans sa chaussure, quelque chose qui l'embête beaucoup et qui va intervenir vendredi, dans deux jours, à New York. On sait, ça y est, que l'on va enfin connaître, et qu'il va enfin connaître, Donald Trump, la sentence, le verdict, sa peine dans l'affaire Stormy Daniels. Donald Trump, on s'en souvient, qui a été condamné en mai 2024, l'année dernière, dans cette affaire, pour avoir payé l'actrice de film X, Stormy Daniels, quelques jours avant l'élection présidentielle de 2016, et fait en sorte de dissimuler ce paiement dans ses comptes de campagne. Et donc, le juge Merchan a maintenu la sentence, la publication de cette sentence pour vendredi. Ça, Donald Trump, on l'a beaucoup dit, a vraiment tout fait pour éviter ce moment avant son investiture. Ça ne sera pas le cas. Il a encore tenté de faire appel ces derniers jours. L'appel a été rejeté. Et donc, vendredi, c'est vrai que ça va être une ombre 10 jours avant son investiture que Donald Trump n'avait pas du tout envie de voir planer sur lui.
Clairement, et c'est plus au fond l'image que la sentence elle-même qui l'inquiète, parce que le juge a déjà fait savoir qu'il allait émettre une sentence qualifiée en anglais de « unconditional discharge », c'est-à-dire qu'il n'y aura ni peine de prison, ni amende, ni même peine avec sursis, donc on sera sur une décision symbolique, mais il y aura bien la validation de la condamnation que tu évoquais et de ce président coupable au titre des 34 chefs d'inculpation qui étaient soumis à cette procédure. Et le juge, comme tu l'as vu, lui demande d'être présent. Alors il dit dans son dans le texte qui a été publié, soit physiquement, soit virtuellement. Mais en tout cas, il compte bien avoir une présence de Donald Trump à l'occasion de la présentation de la peine, encore une fois totalement symbolique, qui lui sera infligée à cette occasion-là. Et donc, c'est plus effectivement l'idée de devoir subir cette humiliation symbolique à quelques jours seulement de son arrivée, du début de son deuxième mandat qui lui fait peur, que le fait de risquer une peine de prison, ce qui sera évidemment pas le cas.
Oui, alors il y a quand même une chose dont il peut se réjouir, c'est que parallèlement, il a réussi à stopper, à faire arrêter le projet de Jack Smith, du procureur spécial, de rendre public le rapport spécial dans l'affaire des documents que Donald Trump avait stocké illégalement à Mar-a-Lago. Et ça, une juge, la juge Cannon, vient de lui donner raison. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Donald Trump, et justement ça évite qu'il y ait un autre dossier, une autre ombre qui s'ajoute à ce tableau. Mais c'est vrai que oui, évidemment, ça va nuire une fois de plus à l'image qu'il veut renvoyer, celui d'un winner qui gagne la présidentielle, qui va arriver à Washington, qui va nous faire un très beau meeting au Capitol Arena dans la capitale fédérale américaine la veille. On s'imagine que voilà, il va vouloir que tout ça soit une énorme fête pour sa personne. Et d'ailleurs, il s'est même offusqué quelque part que les drapeaux soient en berne suite au décès de Jimmy Carter, l'ancien président américain, en disant que personne ne voulait voir des drapeaux en berne le jour d'une investiture présidentielle. Bon, ça c'est du Donald Trump tout craché. Mais effectivement, mauvais timing pour lui, et à la fois, quelque part, c'est quand même la preuve que même si ses avocats ont été brillants et lui ont permis d'éviter trois des quatre procès qui menaçaient de le faire tomber pendant cette campagne présidentielle américaine et ces quatre dernières années, voilà, il y en a un auquel il n'aura pas réussi à se soustraire totalement.
Oui, et le parallèle qu'on pourrait faire avec le début de notre conversation, où on parlait de la violence de Donald Trump sur les sujets internationaux, il est à faire aussi vis-à-vis des institutions et de l'institution judiciaire. Tu as vu que à l'occasion de ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, il avait à nouveau commis, si j'ose dire, quelques saillies pour dénoncer ce qu'il appelle la corruption du FBI, du ministère de la Justice et de tout cet appareil fédéral politico-judiciaire en général, totalement, à ses yeux, manipulé politiquement par les démocrates. Et donc, si on peut considérer que cette décision de justice aura un effet, eh bien c'est sans doute de le rendre encore plus déterminé à régler ses comptes avec le ministère de la Justice, avec le FBI, avec les autres institutions concernées quand il va prendre les rênes du pouvoir. Il l'a redit de manière très violente et explicite à l'occasion de l'action terroriste de la Nouvelle-Orléans, mais on voit bien que, évidemment, cette décision du juge Merchan va lui donner une motivation supplémentaire pour régler ses comptes.
Merci beaucoup Thierry.
Merci Benoît.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Washington Briefing. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming.